96.1.
O programa dos lusodescendentes e dos lusodependentes que agita a sua tarde de sábado.
Tempestade 2.1.
Olá a todos, il est 14h03 et vous êtes sur Radio Alpha pour Thémestade 2.1, l'émission lusophone de l'association Cap Magellan. Antonin, Laura et Liliana sont de retour, comment allez-vous?
Ça va, super, très contente d'être là.
Génial.
Je trouve qu'il fait quand même meilleur en studio que dehors. Donc
c'est très compliqué en même temps. Et notre experte Anna Sara est aussi avec nous. Elle présentera Panibello Americano d'ici 30 minutes. Comment ça va?
Ça va très bien, Julie. Et toi, comment tu vas?
Ben, moi, ça va, mais le temps, ça doit te changer de Monaco. Hein.
Ah oui. C'est vrai qu'il y a quelques degrés en moins.
Tu regrettes pas d'être avec nous quand même, j'espère. En tout cas, nous, on est très contents que tu sois là aujourd'hui. Et au programme aujourd'hui, culture, sport, musique et podcast, puisque nous recevons aujourd'hui Arthur Vacher, la personne qui se cache derrière le podcast Les Portugaises, et Adrien Deleu, qui fait partie du groupe des Portugaises. Comment vous allez?
Ça va très bien, je suis ravi d'être là. Merci de nous accueillir.
Oui, pareil, très content d'être là pour parler du podcast d'Arthur.
Eh ben, merci à vous d'être avec nous, on est très content de vous recevoir. D'ailleurs, le premier épisode de ce podcast est sorti très récemment, le 9 novembre, si je ne me trompe pas. Et restez avec nous donc pour en savoir plus, on en parle au moment de l'interview à partir de 14h45. Et en attendant, je vous laisse avec une musique de la grande Sara Correia. C'est sorti hier et ça s'appelle « Avisem que eu cheguei ».
Faca na liga, vi no embalo da vida. Quem cria e quem siga, eu tenho destino traçado. Armada até aos dentes, acordei os mais descrentes. Não há perigo equivalente a uma mulher que canta o fado. Faça mantras das mágoas, venho a pé, separo as águas. Faça tremer as pedras do chão. Não me peças para ter calma se o peso todo da alma, se não for cantado, escapa-me da mão. Ai, avisa que eu cheguei, invadi a cidade, descalça pela rua, eu pus-me à vontade. Canto bem alto para quem vier. Invadi a cidade para lhes mostrar porque é que toda a tempestade tem nome de mulher. Sou filha da minha mãe, era filha da mãe dela, alguém que nasceu de alguém. Nunca sonhei ser uma estrela, mas o céu fica-me bem. Quem me viu no alto erguida diz que sou nome de rua, sou nome de avenida. Deixa-me cantar, anunciar a alvorada. Ainda não dormi, veio a noite eu acordada. Quem vi aquilo que eu vi nunca mais dorme descansada. A voz que veio antes de mim não vive mais amordaçada. Ai, avisa que eu cheguei, invadi a cidade, descalço pela rua, eu pus-me à vontade. Canto bem alto para quem vier. Ai, avisa que eu cheguei, invadi a cidade, para lhes mostrar porque é que toda a tempestade.
L'événement de la semaine sur Thémestade 2.1. Aujourd'hui, je vous propose de développer un événement dans l'événement. Je ne sais pas si ça a du sens cette phrase, mais je l'attends. Donc, vous le savez, la semaine dernière a eu lieu le gala de remise de prix de Cap Magellan. D'ailleurs, pour ceux qui étaient là, qu'est-ce que vous en avez pensé?
C'était trop bien. Franchement, c'était très cool.
vraiment un beau moment, notamment de musique, mais aussi humain, avec plein de prix, de personnes qui poussent des initiatives, des associations, des entreprises assez intéressantes. Donc,
Et beaucoup d'émotions aussi.
Mmh. Beaucoup. Oui, beaucoup d'émotions, on va en parler. Arthur, Adrien, vous y étiez pas ? Vous avez pu voir un peu des extraits sur les réseaux sociaux ou pas du tout ?
Oui, j'ai vu que Céline Lopez avait remporté un prix avec son podcast À Gauche.
Ouais, le prix de la meilleure initiative citoyenne, ça vous peut-être vous inspirera pour l'année prochaine, peut-être déposer la candidature ?
Peut-être.
Ça pourrait être trop cool.
Ça serait chouette.
En tout cas, ouais, c'était vraiment un super moment. Et il y a quelque chose en particulier qui nous a tous émus lors de ce gala. Cette année, pour la première fois, Themstadt de Spontouan avait son prix, le prix de la meilleure révélation musicale Cap Magellan Themstadt de Spontouan. Et je voulais revenir avec vous sur le moment de cette remise de prix. La personne qui a gagné, l'artiste musicale qui a gagné, est une petite fille de seulement 12 ans, une fadiste avec une voix formidable, Mariana Portugal. Si vous y étiez ou si vous regardiez en ligne, je suis sûre que vous avez tous été émus comme nous tous. Mariana a pleuré de bonheur en entendant son nom. C'était un très bon moment et un très beau discours.
Boa tarde a todos, boa noite a todos. É com muita alegria e gratidão que recebo este prémio. Quero agradecer à Cap Magellan por esta oportunidade e por todo o trabalho que faz para valorizar os jovens e a cultura portuguesa. Agradeço também a todos os representantes, organizadores e a todo o público presente por este momento tão bonito. Este prémio significa muito para mim e dá-me ainda mais vontade de continuar a cantar e a representar a nossa língua e a nossa música. Quero também agradecer aos meus pais, família e amigos por todo o apoio que me dão sempre. Muito obrigada.
Bravo. Que linda, Mariana!
C'est vraiment émouvant. Je pense que même là, ça nous a tous donné envie de pleurer. Et puis, vous avez entendu notre cher José Carlos Malato, évidemment, qui lui aussi était très ému, d'ailleurs. Et si vous avez raté ce moment, ne vous en faites pas, le replay du gala est disponible sur la chaîne YouTube de Cap Magellan. Et je vous invite vraiment à revivre ce beau moment. Un autre événement, ce soir, a lieu le dîner de gala solidaire annuel de la Santa Casa de Misericordia de Paris. On vous en parle depuis longtemps sur Radio Alpha, pas forcément Themstadt de Spontouan, mais sur la radio en général. Et je vous laisse avec un audio de Joël.
Le 22 novembre 2025, participez au dîner de gala solidaire de la Santa Casa de Misericordia de Paris à la salle Vasco da Gama. Une soirée exceptionnelle avec Vanessa Miranda, Gabriel Lubin et Os Imprevistos. Et tentez votre chance à la Tombola Solidaire pour gagner une sérigraphie de Julio Pomar. Inscription jusqu'au 18 novembre. Ensemble, faisons la différence.
J'espère que vous êtes déjà inscrits et si vous y allez, n'hésitez pas évidemment à nous partager vos photos, vos vidéos sur les réseaux sociaux. Merci en tout cas Joël et d'ailleurs Gabriel Lubin, c'est un chanteur qu'on a reçu sur Themstadt de Spontouan et que je vous recommande vraiment. En tout cas, on espère que cette soirée sera riche en solidarité, même si je n'en doute pas. Et d'ici 5 minutes, Liliana nous présentera Capital Creative. Mais avant cela, je vous propose quand même d'écouter Mariana Portugal. On écoute donc De Chouillade, un fado de Simone de Oliveira, interprété par Mariana Portugal, accompagné par Manuel Miranda et Dominique à la guitare. Vous êtes toujours sur Radio Alpha pour Themestadt de Sponton. Tout de suite, c'est l'heure de la rubrique Capital Creativo avec Liliana. Alors, quel aspect du marché de l'art nous présentes-tu aujourd'hui?
Alors, Julie, cette semaine, je vais vous parler de la foire Paris Photo qui a eu lieu la semaine dernière au Grand Palais. D'ailleurs, c'est dans ce lieu, donc au Grand Palais, que se déroulent généralement les événements les plus importants du marché de l'art, à Paris, en tout cas pour l'art contemporain. Il existe tout au long de l'année en fait d'autres foires aussi plus alternatives réparties dans divers lieux de la ville et ces événements jouent un rôle important dans la scène artistique parisienne mais restent en général de moindre ampleur et attirent un public plus spécialisé. Alors Paris Photo, comme son nom l'indique, rassemble des galeries venues du monde entier et propose un panorama très riche de la photographie. On y découvre aussi bien des œuvres modernes réalisées avec des procédés anciens, donc des tirages argentiques, cyanotypes, photogrammes, etc., que des créations contemporaines explorant les techniques actuelles ou en reprenant même des procédés anciens. Ce que j'apprécie tout particulièrement dans cette foire, c'est la manière dont elle donne à voir toute... comment dire, tout l'étendue de ce que la photographie peut être aujourd'hui. Et on est très loin de l'image un peu réductrice d'un médium figé, cantonné à la simple captation d'un moment. Certaines œuvres peuvent présenter... certaines œuvres qui étaient présentées dans la foire ne ressemblaient d'ailleurs pas du tout à de la photographie, ce qui m'a particulièrement étonnée d'ailleurs. Et elle jouait en fait avec les limites du médium pour brouiller volontairement les frontières entre photos, sculptures, installations ou peintures. Certains artistes expérimentent des supports variés, donc la pierre, la toile, le métal, des écrans numériques et d'autres matériaux d'ailleurs aussi. C'est cette inventivité qui rend la visite aussi stimulante. Et on y ressort avec la sensation que la photographie est un domaine en pleine extension, ouvert à toutes les audaces. Et du coup, pour sortir un peu du contexte portugais et rebondir sur ce sujet de la photographie, je voulais présenter un artiste qui travaille donc ce médium et que j'apprécie. Il s'agit d'Elio Jas, qui est un artiste angolais né à Luanda en 1980. Et aujourd'hui, il est installé à Milan, donc en Italie, et il développe une œuvre photographique profondément ancrée dans des questions de mémoire, de migration, d'héritage post-coloniaux. Et son travail, en fait, il s'appuie sur des images qu'il trouve, donc des photos d'identité, des albums de famille, des archives photographiques coloniales qu'il transforme en matériaux artistiques. Et donc, en réactivant en fait ces fragments de vie oubliés, il met en lumière les tensions, les silences et les absences qui traversent l'histoire officielle. Et donc, dans l'une de ces séries qui s'intitule Inutilizado, par exemple, ces photographies, elles représentent des photos de populations autrefois colonisées par le Portugal. Et il rajoute en fait des tampons administratifs comme du coup le mot inutilizado. Et justement, ça met en tension à tout ce contexte-là. Je sais pas qu'est-ce que ça vous évoque, vous, l'équipe.
Moi, je trouve ça hyper intéressant. Enfin, en fait, je pensais quand tu nous l'as montré, du coup, on voit vraiment le tampon inutilisable en plein milieu. Et du coup, je pensais que c'était un tampon comme quand il y a des droits d'auteur ou des droits d'image. J'avais pas compris au début que c'était son art à lui, quoi.
Bah, ça m'a fait même penser à Canet
Ezo. L'Apichezo.
De l'ascension, en fait. Je me suis posé la question si c'était lié à même quelque chose qui avait été fait par l'État colonial à cette époque-là. En fait, non, c'est lui, c'est son œuvre, et c'est peut-être un moyen pour lui de se réapproprier ces images-là.
Arthur et Adrien, vous aviez déjà vu son travail?
Non, c'est la première fois. Et je pense qu'il est important qu'on parle de l'histoire du Portugal, de cette part-là de l'histoire de la colonisation. Donc c'est un beau moyen de d'en parler.
Ouais, ouais. Carrément.
Et vraiment, les cyanotypes en bleu sont absolument magnifiques. Donc, je vous invite à. Ouais. J'invite toute personne qui nous écoute à aller les regarder de plus près.
On dirait presque des Banksy.
Oui.
Ouais.
J'avoue.
Et du coup, en fait, Téliogèse, il est particulièrement reconnu pour son usage en fait, des procédés photographiques anciens, donc les cyanotypes et les premiers procédés d'impression comme le Van Dyke Brown. Et pour le développement de ses propres techniques d'impression, il associe en fait ces techniques-là anciennes à des procédés et des interventions plus, je dirais, contemporaines, donc comme le collage, la peinture ou la position de tampons administratifs, donc comme caduca, inutilizado, anulado. Et en fait, ces gestes détournent la fonction originelle des archives coloniales pour révéler ce qu'elles portent, enfin, le fait qu'elles portent la notion de contrôle, de classification et de pouvoir. Donc en fait, Téliogèse, il est chercheur archivistique autant qu'artiste et il explore une grande variété d'archives visuelles et textuelles, coloniales et postcoloniales, pour comprendre les manières dont le colonialisme européen a laissé des traces durables. Fasciné par les procédés matériels et chimiques de la photographie, il réfléchit également aux histoires du médium lui-même et en particulier à ses usages coloniaux, donc ethnographie racialisée, documentation classométrique, à la fois la géologie, la botanique, la zoologie, l'occupation territoriale, l'extraction économique, l'urbanisme, parce qu'il utilise beaucoup de paysages également urbanistes. La propagande, la surveillance politique, les guerres, les médias populaires, etc. Et donc sa pratique, en fait, elle repose sur une esthétique du fragment et du palimpseste. Donc un palimpseste, c'est une surface où de nouvelles images apparaissent sans effacer totalement les précédentes, laissant visible en fait la stratification du temps. Les images se superposent, se brouillent. En gros, elles se fragmentent, se décomposent et perdent un peu leur lisibilité initiale. Et cette matérialité stratifiée incarne la complexité de la mémoire postcoloniale, instable, conflictuelle, marquée par les effacements autant que la survivance. Et donc l'artiste explore ainsi le concept d'image latente pour interroger non seulement ce que l'archive montre, mais aussi ce qu'elle dissimule ou refuse de dire. L'un des enjeux de son œuvre est de restaurer une reprise de pouvoir noir, une capacité d'agir, de résister, de se réapproprier son image au sein d'archives historiquement blanches, en portant attention à des visages, des gestes ou des presses reléguées en marge des présentations coloniales. Il construit un contre-récit visuel qui redonne visibilité et dignité aux subjectivités noires effacées. Et donc Téliogèse interroge également la persistance du colonial dans le présent, notamment à Lisbonne, où les symboles de l'Empire coexistent avec des communautés africaines souvent marginalisées. Et son travail met en lumière ces continuités et fait de la photographie un outil critique pour repenser en fait, les rapports entre passé et présent. Pour la transformation poétique et politique d'archives fragiles, Téliogèse construit une contre-mémoire visuelle, un espace de résistance, de relecture et de réappropriation qui invite chacun à déconstruire les récits dominants et à imaginer une histoire partagée, plurielle et ouverte.
Merci beaucoup, Liana. Moi, j'ai découvert un artiste, je ne sais pas vous, ce que vous en avez pensé.
Ben, je ne le connaissais pas du tout, mais ça donne vraiment envie de découvrir son travail beaucoup plus.
C'est clair. Je trouve que le combat est super intéressant et riche. Et le fait de passer par la photographie, moi, c'est un médium qui me parle beaucoup. Je sais que tu le sais, Liliana. Et donc, je trouve ça vraiment trop bien. Je pense qu'on va tous aller taper son nom sur Google juste après. Donc, Téliogèse. Et merci pour cette présentation. On change de registre juste après, d'ici 5 minutes. Moins de 5 minutes, ce sera Panorama Ibero-Americano. Et tout de suite, je vous propose d'écouter le dernier single d'un de mes artistes portugais préférés. Tout de suite, Fotografia de Agir.
Yeah. Guarda uma fotografia. Foi o que eu te disse quando não sabia o que no futuro havia. Lágrimas caem do rosto, yeah. Por ser só um fura-vidas, quando no fundo tu não merecias. mas o tempo cura feridas. E ainda bem que tu guardaste, guardaste a fotografia. Foi o que eu te disse quando não sabia o que no futuro havia. Lágrimas caem do rosto, yeah. Por ser só um fura-vidas, quando no fundo tu não merecias. Mas o tempo cura feridas. E ainda bem que tu só guardaste o melhor. Guarda as memórias que te façam ficar. Escreve uma história que não dê para pegar. Eu nunca te quis magoar. Guarda o melhor. Guarda as memórias que te façam ficar. Escreve uma história que não dê para pegar. Não me faças prometer coisas que no fundo não vou cumprir. Não fiques a pensar em nós, yeah, yeah. Quando à noite fores dormir, eu sei que nunca dou notícias, yeah. Não me obrigues a mentir, yeah. Então tu vais parar o tempo. Ainda acabas a dizer, baby, eu já nem te conheço. Guardaste o melhor. Guarda as memórias que te façam ficar. Escreve uma história que não dê para pegar. Eu nunca te quis magoar. Guarda o melhor. Guarda as memórias que te façam ficar. Escreve uma história que não dê para pegar.
Stade de Spontan sur Radio Alpha. Vous arrivez à temps pour Panorama Ibero-Américaine. Avant de te lancer, Anna, j'ai une question pour nos invités, Arthur et Adrien. Est-ce que vous suivez un peu l'actualité ibéro-américaine?
Moi, j'avoue, je la suis pas beaucoup, je la connais pas beaucoup, mais je suis très curieux.
Je suis curieux aussi, j'ai vu qu'il y avait la COP30 qui avait lieu.
Voilà. Ça, vous n'avez pas pu passer à voilà. côté. Mais du coup, c'est parfait si vous n'avez rien suivi, parce que comme ça, Anna va pouvoir nous résumer tout ce qu'on a raté ce mois-ci.
Exactement. Alors, nous sommes en plein mois de novembre, une période où normalement, au Portugal, on se rassemble autour de castagnes. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas consacrer la chronique au marron grillé, même si, avouons-le, c'est tentant, surtout avec le froid qu'il fait là aujourd'hui, ouais. ici à Paris.
Ça donne envie.
Et oui. Aujourd'hui, nous allons parler d'une actualité majeure qui a secoué l'Amérique latine et le monde entier, la COP30 à Belém, au cœur de l'Amazonie brésilienne. Cette conférence internationale sur le climat attire tous les regards depuis plusieurs mois. Et son déroulé a été bouleversé par un événement inattendu. Un incendie survenu le 20 novembre qui a entraîné l'évacuation du site. Mais avant de plonger dans les enjeux de cette COP30, comme toujours, dans Panorama Ibero-Americana, commençons par le monde lusophone et notamment le Portugal. Le Portugal connaît actuellement une dynamique économique très positive. Le pays affiche un excédent budgétaire supérieur aux prévisions grâce à la vigueur du tourisme, à une fiscalité efficace et à une gestion publique prudente. Lisbonne montre ainsi qu'il est possible de concilier stabilité financière et investissement dans l'avenir, que ce soit dans l'éducation, dans les infrastructures ou encore dans la transition écologique. Cette situation renforce la confiance des investisseurs et permet de soutenir des projets ambitieux tout en offrant de nouvelles marges de manœuvre pour améliorer la qualité de vie de la population. Même si toutefois des idées et des défis subsistent, comme l'attractivité pour la jeunesse ou le coût de la vie, cette réussite économique illustre un Portugal résilient et tourné vers l'avenir. Depuis l'Europe, le regard se tourne ensuite vers le sommet UE-CELAC. Alors le sommet UE-CELAC, c'est le sommet des relations entre l'Europe et l'Amérique latine et les Caraïbes. Donc ce sommet s'est tenu à Santa Marta, en Colombie, qui avait vraiment pour objectif de relancer un dialogue, notamment autour des enjeux stratégiques comme la transition énergétique, la sécurité alimentaire, la protection de l'environnement et la coopération numérique. Les dirigeants latino-américains ont insisté sur la nécessité d'un soutien concret avec des financements et des technologies adaptées, tandis que l'Europe a souligné son engagement en matière d'investissement vert et de respect des droits humains.
Ces négociations montrent combien la région peut être un acteur clé sur la scène mondiale lorsqu'elle se coordonne efficacement avec ses partenaires internationaux. On va descendre un petit peu plus au sud, au Chili, où la scène politique reste très active. Les élections législatives du 17 novembre ont permis à la droite d'obtenir la majorité au Parlement, renforçant la position du candidat d'extrême droite José Antonio Kast avant le second tour présidentiel prévu le 14 décembre. Ces résultats placent la candidate du Parti communiste chilien, Jeannette Jara, sur la défensive. Même si elle avait été légèrement en tête au premier tour, les enjeux sont nombreux. Sécurité, immigration, justice sociale et perspectives économiques. Si José Antonio Kast est élu, ce sera la première présidente d'extrême droite depuis la dictature de Pinochet, qui était donc une dictature majeure en Amérique latine au XXe siècle. Un événement qui aura un impact symbolique et politique majeur pour le Chili et pour la région. Dans le même temps, les tensions entre les États-Unis et le Venezuela se sont accentuées. Le 11 novembre, les porte-avions USS Gerald R. Ford, le plus grand au monde, a été déployé dans la région, officiellement pour lutter contre le narcotrafic. Le Venezuela a réagi en annonçant un déploiement massif de ses forces armées. Ces situations appellent combien l'Amérique latine est un terrain stratégique où se croisent souveraineté nationale et enjeux internationaux, et où les décisions de quelques-uns peuvent avoir des répercussions pour toute la région. Et maintenant, revenons à la COP30 à Belém, qui est sans doute le sujet le plus stratégique de cette chronique. Pour ceux qui découvrent, la COP, ou Conférence des Parties, est une réunion annuelle où les pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques discutent des moyens de limiter le réchauffement climatique. Chaque COP est essentielle pour évaluer les engagements pris, définir de nouvelles stratégies et coordonner les efforts internationaux pour protéger la planète. La COP30 est particulièrement importante car elle se tient en Amazonie, souvent appelée le poumon de la planète, capable d'absorber des milliards de tonnes de CO2 et de réguler le climat mondial. Les objectifs de cette conférence sont multiples. Réduire les émissions de gaz à effet de serre, protéger les forêts tropicales, soutenir les pays vulnérables et mobiliser les financements internationaux pour des projets durables. On parle aussi de concepts comme les fonds pour pertes et dommages qui permettent d'aider financièrement les pays subsistant déjà aux effets climatiques, même s'ils ne sont pas responsables. Cette COP rassemble non seulement des chefs d'État, mais aussi des scientifiques, ONG, entreprises et représentants de la société civile. Tous ont des priorités différentes. Certains insistent sur la protection de la biodiversité, d'autres sur l'économie verte ou la justice. Et les débats sont assez complexes. Comment concilier une croissance économique en préservant la forêt ? Comment garantir les engagements et être sûr que tous ces engagements seront respectés ? Et surtout, comment transformer les promesses en actions concrètes pour protéger la planète ? Le 20 novembre, un incendie a éclaté sur le site de la conférence, provoquant l'évacuation immédiate de tous les participants. Heureusement, aucun blessé n'a été signalé et les dégâts sont limités. Mais cet incident symbolise l'urgence de l'action climatique. Une conférence dédiée à protéger l'Amazonie, touchée par le feu, rappelle que le temps presse et que les discussions doivent se traduire rapidement en mesures concrètes. Malgré les difficultés, la COP30 a permis de mettre en lumière l'importance de la coopération internationale, la protection des forêts tropicales et la responsabilité partagée face au climat. Les engagements pris ici auront un impact direct sur la région et sur le monde entier. Et l'attention médiatique internationale montre à quel point l'Amérique latine peut jouer un rôle central dans la gouvernance environnementale mondiale. En résumé, ce mois de novembre ibéro-américain a été marqué par des succès économiques comme celui du Portugal, par des négociations diplomatiques ambitieuses comme au sommet EU-CELAC et également par des élections déterminantes, notamment au Chili, sans oublier les tensions géopolitiques au Venezuela. Cette période rappelle que l'Amérique latine est au cœur des grands enjeux du XXIe siècle, capable d'allier diplomatie, écologie et dynamisme économique. Alors nous refermerons cette chronique et gardons en tête cette image forte. L'Amazonie est fragile, mais son avenir est entre nos mains et chaque décision politique, économique ou citoyenne peut avoir un impact réel. La COP30, avec ses succès, ses imprévus, nous rappelle que la protection de la planète est un défi collectif et immédiat et que l'Amazonie latine a un rôle essentiel à jouer. Restez à l'écoute, continuez à suivre ces enjeux de près et souvenez-vous, chaque geste compte et chaque action prise aujourd'hui résonne bien au-delà de nos frontières.
Merci beaucoup, Anna. C'est bon, vous êtes au point maintenant sur l'actualité. Je pense qu'on a tous appris beaucoup de choses. Merci beaucoup. Et effectivement, la COP30, très important. On l'avait tous vu passer, je pense. Et bah, faites attention à vous, surtout avec les incendies qu'on a connus, le froid qu'on connaît aujourd'hui. Et comme tu l'as dit, chaque geste compte, même si il y a des enjeux qui nous dépassent aussi. En tout cas, restez avec nous. D'ici 5 minutes, vous en faites pas. On va être plus joyeux. On change de sujet. Ce sera l'interview avec Arthur Vacher et Adrien Deleu. En attendant, on écoute une nouveauté lusophone sortie hier, Serenate de Zarco et Aurora Pinto.
Sozinho no mar, ei, tô sozinho em paz. Mas tá a ficar gelado, ei, anda aqui a abraçar. Eu vou rapar o sol, pra ficar ao lar.
C'est très généralisé en plus.
C'est un truc
qui
est
sozinho no mar,
ça fait peur pour l'Europe.
Mais là, ce qui est encore différent, c'est qu'ils ont vraiment vécu une dictature de l'extrême droite il y a moins de 50 ans, en fait. Donc,
Oui, les temps sont pour l'instant, ça va.
Fazer uma serenata.
Amor, eu sou de fases, tal e qual como a lua. Até me podes ter, mas meu bem, nunca vou ser tua. O sol já não me aquece, a minha pele já não sente. A minha cabeça estraga qualquer felicidade para sempre. Param, pam, 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 entre espalha e parede. Abrir o coração é abrir a frio outra vez. Abre-te o coração, não me abras a frio outra vez. Tô sozinho no mar, ei, tô sozinho em paz. Mas tá a ficar gelado, ei, anda aqui a abraçar. Eu vou roubar o sol pra ficar solar. Chamar as estrelas e fazer uma serenata. Tô sozinho no mar, ei, tô sozinho em paz. Mas tá a ficar gelado, ei, anda aqui a abraçar. Eu vou roubar o meu sol para um pam pam e fazer uma serenata.
Thémistat de Sponton sur Radio Alpha. Alors, je pense que vous avez entendu un peu de nos conversations en off tout à l'heure. On s'excuse, mais comme vous voyez, les rubriques de Anna Sarah créent des débats entre nous ici sur Radio Alpha. Donc, c'est que vraiment, c'est intéressant. J'espère que vous, ça vous intéresse à la maison autant que nous. En tout cas, vous arrivez à temps pour l'interview avec Arthur Vacher et Adrien Deleu. Alors, Arthur et Adrien, vous vous êtes rencontrés au travail.
Exactement.
Avec Joseph. Vous avez créé le groupe Les Portugais.
C'est ça.
Je dis bien cette fois.
Je prononce très bien.
C'est un groupe donc de trois amis qui sont gays et portugais. Et Arthur, tu as créé le podcast documentaire Les Portugais en partenariat avec la revue Regard. 5 épisodes sont prévus et le premier est déjà sorti le 9 novembre dernier. Et pour cette interview, je vais laisser Laura et Antonin vous poser toutes leurs questions.
Eh oui. En tout cas, dans le premier épisode de ce podcast, comme tu disais, Julie, ça aborde le début de ta rencontre, Arthur, avec Adrien, qui est avec nous aujourd'hui, Joseph. Et on a vraiment l'impression d'être assis à table en soirée avec vous, et vous nous racontez un peu comment tout ça s'est déroulé. Et comment est-ce qu'on raconte, qu'on met en scène, on dévoile au grand public une partie de sa vie?
Alors déjà, faut vivre ces expériences. Nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vécu des moments tellement forts que j'ai voulu les enregistrer j'ai commencé à mettre un micro et à vouloir réécouter seul chez moi dans ma chambre des conversations qu'on avait, parce que j'étais ému de vivre ça avec deux amis gays et portugais. Et à force de la vivre, ces expériences, on finit par se dire que c'est possible de les raconter, de les transmettre à d'autres.
Clairement, oui. Et ça, on le ressent très très bien.
Et du coup, pour commencer ce podcast, quel a été l'élément déclencheur qui a vraiment donné envie de le faire concrètement?
Je crois nos fous rires. Voilà, on riait plusieurs fois. Et la fin de cette amitié, puisque c'était un trio qui s'est un peu dégradé avec le temps. Et j'ai trouvé ça beau de mettre en scène et de donner à voir une amitié et de montrer sa fragilité, parce que nos amis, il faut en prendre soin, et que c'est quelque chose qui arrive parfois dans une vie. D'avoir un ami, il faut vraiment en prendre soin.
Et c'est vrai qu'à la base, le projet, c'était vraiment de faire un podcast de conversation où on était tous les trois et on se disait qu'on se réunissait pour nos soirées portugaises, qui étaient des soirées où on voulait regarder un film portugais à chaque fois, et puis sélectionner un espèce de sujet qui nous tient à cœur pour thématiser un peu. Et effectivement, comme le trio s'est un peu dissous, en discutant avec Arthur, c'est vrai que lui avait vraiment envie de raconter cette amitié-là qui avait été un peu exceptionnelle pour nous trois pendant un peu plus d'un an. Et donc du coup, il a pris le parti, tu me dis si je me trompe, mais de le raconter de son point de vue à la première personne. Et ce qui est assez drôle, c'est que d'ailleurs, on n'a pas toujours les mêmes souvenirs autour de ça. Je suis trop content de cet objet, en tout cas.
Et dans le podcast, donc, vous mélangez culture portugaise, identité LGBT, amitié. Est-ce que l'une de ces trois dimensions a été plus difficile à aborder comme ça publiquement?
Pas aborder publiquement, parce que comme on l'a vécu, ça donne envie de le transmettre, et donc on n'a pas de problème avec ça. Mais par contre, à le vivre, c'est vrai que pour ma part et pour celle d'Adrien, on a chacun des parcours différents, des coming out différents, et c'est vrai que la culture portugaise et les LGBT, c'est pas forcément quelque chose qu'on lit au premier abord. En tout cas, pour ma part, moi, ma grand-mère, qui est vraiment le symbole de cette culture portugaise, c'est là où j'allais tous les étés, m'a fait comprendre qu'elle voulait pas entendre parler de mon coming out, et qu'elle a mis un terme à notre relation pendant quelques mois, pendant 6 mois à peu près. Et c'est vrai que ça m'a fait énormément plaisir, et c'est ce que je raconte dans le podcast, de redécouvrir cette via mes amis, et pouvoir par exemple enfiler des tabliers portugais, danser, manger des pastéis de nata, et tout en chantant sur Lady Gaga. C'était une manière de corréler ces deux cultures.
Et du coup, comment comment t'as trouvé l'équilibre pour raconter ça entre intimité, pudeur, est-ce qu'il y a des sujets que t'as volontairement pas abordés?
Non, j'ai essayé d'être le plus impudique, d'essayer d'être le plus sincère. Après, c'est ma sincérité, ma vérité. Et c'est vrai que je me suis aperçu qu'on n'avait pas les mêmes souvenirs, les mêmes drôles avec Adrien. Mais j'ai besoin d'être le plus honnête possible. Et j'espère que ça s'entend dans le podcast.
Oui, mais du coup, toi, Adrien, tu avais un droit de regard un peu sur ce qui était dit ou pas?
Oui, et c'est en ça que notre relation est super chouette. Et j'avais confiance en Arthur en lui laissant la main sur le podcast pour le raconter de son point de vue, pour qu'on soit quand même d'accord sur sur ce qu'il racontait. Mais c'est vrai qu'il y a des petits détails où soit vraiment pas très important, comme il dit dans le premier épisode que mes yeux sont marrons, ce qui est pas le cas, et je me dis rigolo.
Non, c'est vrai,
et deux détails parfois plus importants entre guillemets, mais c'est ça qui est drôle aussi. Dans le deuxième épisode, sans trop de spoil, mais tu parles des premiers mois où on se tournait autour avant de vraiment ne plus draguer et choisir d'être purement amis. Et c'est vrai qu'il n'avait pas du tout... Il raconte une soirée que je n'ai pas du tout vécue de la même façon. Et donc, ça a été très drôle d'en parler au téléphone et de se dire « Attends, du coup, qu'est-ce qui s'est vraiment passé et qu'est-ce que tu vas vraiment dire ?»
Voilà, ça permet de dire justement. Oh, pardon.
Justement, je voulais rebondir là-dessus. Un moment, tu parles justement de cette hypersexualisation des personnes gays dans leur rapport à premier abord. Comment est-ce que, en montrant votre relation amicale à travers le podcast, vous arrivez à casser ce schéma?
C'est une bonne question. Je ne sais pas si on réussit à casser ce schéma, mais c'est vrai que... Enfin, comment dire, moi, il m'est arrivé quelque chose d'assez bête, c'est que je suis tombé en dépression, et donc j'ai pris des antidépresseurs, et ça m'a coupé la libido et l'érection. Et du coup, j'ai été forcé de voir mes relations autrement que par la sexualité. J'ai été amené à préférer passer du temps avec mes amis, à manger un repas, à jouer à un jeu de société. Des choses très concrètes comme ça qui m'ont fait désexualiser ces relations.
Et ouais, en tout cas, il y a un mélange assez fort entre des éléments captés sur le vif et la narration que tu fais, qui est assez carrée, quasiment robotique. Est-ce que pourquoi ce choix, en fait ?
Alors, ce choix de le lire à la première personne et d'être très sérieux, pour faire entendre que l'amitié, pour moi, c'est un sujet très important et que je ne voulais pas rigoler avec, même s'il y a des moments assez cocasses que je laisse entendre via nos enregistrements. Je voulais vraiment incarner cette voix et montrer que c'était sérieux.
Et du coup, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour les prochains épisodes ? Et est-ce que vous avez déjà des dates de parution prévues ?
Oui, donc il y en a un par mois qui sortira donc chaque première semaine de chaque mois. Et ils sont tous thématiques. Le premier épisode, il s'agit de la rencontre, de notre rencontre tous les trois. Le deuxième épisode, ce sera sur le pacte que l'on s'est promis à trois. Ensuite, ce sera sur nos premières fois. Et d'autres épisodes sont à venir.
Mais on a hâte de voir ça.
Merci. Ouais,
vraiment, on a hâte de voir ça. Et ne vous en faites pas, la conversation n'est pas terminée. Merci déjà pour vos premières réponses. On continue d'ici 5 minutes. On parlera plus en profondeur de votre lien avec le Portugal, l'acceptation aussi, notamment de vos grands-parents. Vous en avez déjà un peu parlé. Et tout de suite, on va écouter une musique que tu as choisie, Arthur. C'est de la grande Amália Rodrigues, Vou dar de beber à dor.
Foi no domingo passei à casa onde vivia a Mariquinha, mas está tudo tão mudado que não vi nenhum lado. Estas janelas que tinham tabuinhas, do resto o chão ao telhado, não vi nada, nada, nada que pudesse recordar-me a Mariquinha. E há um vidro pegado e azulado onde vi estas ruínas. Entrei onde era a sala, agora está a secretária, um sujeito que alegrinhas. Mas não vi colchas com barra, nem viola, nem guitarra, nem espreitadelas furtivas das vizinhas. O tempo cravou a garra na alma daquela casa onde às vezes petiscávamos sardinhas. Quando em noites de guitarra e farra estava alegre a Mariquinhas. As janelas tão garridas que ficavam com cortinados que chita as pintinhas perderam de toda a graça, porque é hoje uma vidraça com cercaduras de lata às voltinhas. E lá para dentro quem passa hoje é para ir aos pinhões entregar ao usurário umas coisinhas. Pois chega esta desgraça, toda a graça, a casa da Mariquinha. Para terem feito da casa o que fizeram, melhor fora que a mandassem para as alminhas. Pois ser casa de pinhor, o que foi viver de amor, é ideia que não cabe cá nas minhas. Recordações do calor e das saudades do gosto eu vou procurar esquecer numas ginginhas. Pois dar.
Vous êtes sur Radio Alpha pour l'émission Themestadt de Sponton. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes toujours en interview avec Arthur Vacher et Adrien Deleu.
Du coup, on parlait tout à l'heure du rythme de parution du podcast. Et justement, vous avez fait une fête de lancement pour le podcast la veille de sa sortie. Est-ce que, comment ça s'est passé déjà? Est-ce que c'était cool? Et est-ce que vous avez prévu d'en refaire d'autres?
Alors, c'était la soirée de lancement et ça le restera. Et c'était un moment magique. On a réussi à réunir plein de monde dans un lieu qui nous est très cher à nous, les Portugais. C'était la Libre LGBT, les mots à la bouche, qui est dans le 11e à Paris. Et on a pu terminer cette soirée, la clore, par une dégustation de pastéis de nat. Donc on était très heureux de faire ça avec l'épicerie Comme à Lisbonne, qui nous ont écrit, qui sont l'épicerie est tenue par un couple gay. Et donc ils ont été touchés par ce projet, ils ont voulu nous soutenir à leur façon en nous offrant des pastéis de nat. Donc c'était très, très agréable comme soirée de lancement.
Et quels ont été les retours des gens qui étaient présents, que tu as eus?
Alors c'était particulier parce qu'il y avait beaucoup de monde ému, presque aux larmes parfois. Et il y avait même eu un malaise à un moment, mais c'est parce qu'il faisait trop chaud.
La librairie était pleine.
Wow. Ce qui est un très bon signe.
Tu étais du coup,
Arthur m'avait convié à un entretien avec un journaliste qui l'avait fait venir pour présenter un peu le projet. Et c'est vrai que c'était trop chouette parce que notre peur avec le podcast depuis le début, c'est aussi que ça n'intéresse que nous, et c'est dur de... Enfin, on se posait à quel point ça pourrait toucher les gens. Et c'est vrai que, et notamment les questions du journaliste aussi avaient permis d'ouvrir pas mal. Et je pense que tout ce que tu dis, Arthur, sur et la dépression et la façon dont l'amitié l'a aidé à traverser cette période-là, je crois que ça a résonné en pas mal de personnes, et du coup c'était très surprenant mais très chouette.
Et du coup, pour revenir un peu au thème de les Portugais, le Portugal, justement, aussi entre tradition catholique forte et grande modernité sociale quand même, comment est-ce que vous, dans vos expériences personnelles, au sein de vos familles, vous avez vécu cette dualité?
Alors, j'ai toujours trouvé la Vierge Marie très fashion. je l'ai vue tellement de fois, je pense, au Portugal, que c'est devenu une icône pour moi à la hauteur de Lady Gaga.
Mais, wow.
J'adore.
Mais voilà, j'ai réussi un peu à prendre ce que je voulais sans prendre tout, et toujours en rire.
Et tout à l'heure, tu parlais de ton rapport au coming out et à ta grand-mère. Moi c'est vrai que pareil, c'est aussi ce qui nous reliait les Portugais, c'était surtout nos grands-parents qui représentaient cette culture-là. Et quand j'ai fait mon coming out à ma famille, on m'avait un peu dit peut-être n'en parle pas à mamie, alors que c'était vraiment la personne dont j'étais le plus proche. Et puis finalement un jour elle était venue dans ma chambre me dire qu'elle était au courant, ma mère lui avait dit, et qu'en fait il n'y avait aucun problème et que sa porte me serait toujours ouverte. Et ça a été un tel contre-pied de me dire que cette femme, on avait 60 ans d'écart, et elle très religieuse, moi pas croyant, en fait ça a renforcé notre lien sur les dernières années de sa vie. Et du coup, pareil, je trouve que vraiment modernité et tradition mêlées dans cette même relation, quoi.
Faut que tu dises que tu essayais ses robes.
Oui, après ça, on était déjà très proches, mais vraiment ça a désamorcé quelque chose. Et notamment une fois où elle a déménagé, où elle triait ses vêtements, du coup je demandais à pouvoir les essayer. Elle m'a filé plein de chemisiers, de manteaux, parfois de robes, en me disant que ça nous servirait un jour peut-être pour du drag ou autre.
Trop bien, on veut voir ça, hein.
Ah oui. Mais oui, en fait doit y avoir quand même une sacrée appréhension avec ces familles un peu traditionnelles. Et puis même les médias portugais, je ne sais pas si vous en consommez, mais ils ont longtemps représenté l'homosexualité avec un peu de prudence. Mm-hmm. Et pour vous, est-ce qu'il y a un personnage, un film ou un moment médiatique portugais qui vous a fait vous sentir validé un peu ou reconnu?
Alors moi, c'est pas des réalisateurs portugais, mais c'est un réalisateur espagnol, Almodovar, qui m'a profondément touché. Et en fait, quand j'ai vu certains de ses films, ça a été une révélation. Je me suis senti englobé dans cette culture, parce que la culture espagnole est très proche de la culture portugaise sur certains aspects, donc je me suis vraiment identifié.
Et alors je pense à un film, mais j'ai plus le nom ni le réalisateur, mais qui est sorti il y a 2-3 ans, qui passe au Festival de Cannes, sur un prince portugais, c'est un peu qui tombe amoureux d'un qui veut devenir pompier, qui tombe amoureux de l'un de ses camarade de formation. C'est assez récent, je j'arrive pas à retrouver le.
Ah non, je ne vois pas non plus.
Ça me dit rien.
Ouais, moi non plus.
Je vous le retrouve au cours de
l'émission. C'est portugais.
Ouais, c'est portugais.
Ok.
Si vous nous écoutez et que vous avez le nom, n'hésitez pas à nous l'envoyer sur le WhatsApp ou sur les réseaux sociaux, parce qu'on est tous très frustrés de ne pas l'avoir.
Oui, vraiment.
Et j'avais trouvé ça hyper. Enfin, je m'y attendais pas du tout. Et j'avais trouvé ça très camp et très. Comment dire, beaucoup d'amour pour la culture portugaise et religieuse aussi, mais de façon détournée, c'était très chouette. Feu Follet, en français.
Feu Follet.
Dom Pedro Rodrigues.
Ok.
Fogo Fatuo en portugais.
Ok, ça me dit quelque chose comme ça, mais.
Et il date de 2022.
Allons le voir.
Sur la watchlist.
Je pense à un autre film aussi qui s'appelle Seule la Terre. J'ai oublié le nom du réalisateur, mais c'est l'histoire d'un couple, d'un jeune homme qui est homosexuel et qui travaille chez ses grands-parents la terre. Et ça m'a beaucoup rapproché et m'a donné envie de me questionner plus sur la terre de mes grands-parents dans le Nord.
Bah, merci beaucoup pour encore vos réponses. Et en parlant d'icônes, on a parlé de la Vierge Marie, on a parlé de Beyoncé. Moi, je vous propose qu'on écoute une musique que tu as choisie de deux icônes, Rosalia et Carminho, Memoria. Je pense que tout le monde la connaît déjà par cœur maintenant.
Ainda sabes de onde eu vi, que sou esta que aqui estou. Diz-me no meu olhar triste que alguma memória existe. E ainda sabes quem sou. Diz-me se ainda tropeço, se me alegro, se agradeço, ou se ainda sei cantar. Recorda-me, por favor, alguma coisa, o que for, que eu não consigo lembrar. Vai comigo pela cidade, diz-me com sinceridade se tu te lembras de mim. Onde cresci e amei, com quem vivi e me dei, ou se algo eu pus fim. Tu me conheces, que o tempo passa e não esqueces quem eu fui, sou, enfim. Oh, meu doce coração, diz-me se sabes ou não, ainda te lembras de mim. Siempre que me acuerdo de algo, siempre lo recuerdo.
Et on reprend la conversation, Arthur et Adrien. Comment est-ce que. Est-ce qu'il y a un mythe familial portugais chez vous, comme par exemple le machisme, virilité, religion, que vous avez dû déconstruire vraiment à fond?
Je dirais que, en tout cas, pour parler de ma culture, ma famille, il y a eu un aspect très patriarcal, très machiste, mais j'ai eu la chance d'être enfant, et en fait, un enfant, il a la possibilité d'entrer dans les cuisines, là où toutes les femmes se réunissent. Il y a la possibilité d'être au moment où on prépare le repas. Et tous ces moments-là, ça a été précieux pour moi parce que c'était des moments où j'étais qu'avec des femmes et que j'étais avec leurs discussions, leurs colères, leurs émotions qu'elles partageaient, et elles étaient les plus intimes dans ces moments-là. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à m'en défaire.
Je vais répondre un peu dans le même sens que toi, où mon père étant français, j'ai plus été au contact des femmes et du côté portugais, donc j'ai pas tant déconstruit vis-à-vis de. Ma déconstruction du patriarcat, elle est pas tant venue d'un machisme lié à la culture portugaise, mais plus à la société hétéro-patriarcale de base. Mais c'est vrai que du coup, ça nous a. Enfin, on a été surtout par des femmes, et je pense que ça nous a aussi construit contre beaucoup. Pour essayer d'être des garçons plus sensibles et plus en accord avec leurs émotions.
C'est très fort.
Merci.
Et est-ce que justement vous parlez de cette dualité entre avoir été élevé par des femmes portugaises, est-ce que vous avez vécu au Portugal, est-ce que vous avez connu la communauté LGBT là-bas, et est-ce que vous l'estimez aussi présente, organisée et safe qu'en France, ou pas tant que ça?
Alors c'est pour ma part, c'est tout récemment que je découvre la culture portugaise. On est allé au Portugal avec Adrien et on a découvert qu'il y a un bar gay qui est dans la rue là où sa grand-mère est née.
Ouais.
Et c'est le Drama Bar pour ceux qui connaissent. Et donc on a vu une drag queen performer sur une chanson. Je sais plus c'était les.
C'était du Taylor Swift.
Ouais, Taylor Swift.
À Lisbonne. Beige. Ouais, à Lisbonne. Rue de Machen, je vais pas réussir à le dire.
On trouvera
dans le quartier de Grasse.
Ok,
mais du coup, enfin, ni l'un ni l'autre n'avons vécu au Portugal. Ça a surtout été des vacances avec la famille, les grands-parents depuis l'été.
Oui.
Depuis l'enfance, pardon. Moi, beaucoup à Lisbonne et dans le sud.
Et moi, dans le nord. Et on s'est rejoint et par nos points communs, on essaye de profiter du Portugal d'une autre manière maintenant.
Ouais, de se réapproprier un peu cette culture-là.
Ouais, par LGBT, il ne doit pas y en avoir beaucoup. D'où tu viens, toi, Arthur? C'est pas Lisbonne?
Oui, oui.
C'est clair.
Le nord du Portugal.
Ouais, alors peut-être à Porto, mais oui. Sinon, ouais.
Voilà, il faut se rapprocher de Porto.
Ouais, sinon, il y a encore du progrès à faire. Et... est-ce qu'il y a un souvenir de votre famille qui a particulièrement influencé la place qu'occupe la culture portugaise dans votre vie aujourd'hui?
Je dirais peut-être le geste que ma grand-mère fait de rajouter trop d'huile d'olive dans ses plats.
C'est gabasse.
j'ai gardé ce geste-là.
Ouais, il y en aurait plein. Moi, je pense surtout du gars avec ma grand-mère.
Vous chantiez quoi?
Souvent des comptines, ou alors elle chantait tout le temps une chanson qu'un membre de sa famille avait écrite. Okay. Et du coup, pareil, là je l'ai plus en tête, mais je sais que la dernière année de sa vie, je la notais sur un papier, puis on la chantait régulièrement ensemble, et j'ai mon oncle qui fait de la musique qui l'a enregistrée. Donc voilà.
On veut l'écouter, hein.
Ouais.
On veut l'écouter, on veut la passer. Hein.
Et un peu pour commencer à conclure cette interview avec vous, comment est-ce que vous êtes fiers d'être une belle représentation pour de jeunes portugaises, d'autres d'écoute et qui sont peut-être pas encore outés?
Moi, j'aurais tendance à dire que ce soit à travers le podcast ou nos expériences personnelles, c'est vraiment le groupe fait du bien. Parler, trouver des gens qui nous ressemblent, que ce soit avec la culture portugaise, la culture queer ou les deux. Mais c'est vraiment ça qui donne de la force, qui fait qu'on se sent seul et qui donne envie de s'affirmer et d'être fier de soi.
Je te rejoins complètement.
Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui a peur de le dire à sa famille?
De s'écouter, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas le forcer à parler, parce qu'on sait que ça peut avoir des impacts très concrets, comme une mise à la porte par exemple. Mais de rechercher une altérité, ça veut dire essayer de rechercher quelqu'un d'autre avec qui passer du temps dans les bars. Si c'est que dans les livres, ce sera déjà ça, ou dans les films. Mais essayer de rencontrer d'autres gays ou lesbiennes ou LGBT, enfin voilà, d'autres queers.
Et je suis sûre que vos DM sont ouverts aussi.
Exactement.
Pour tous
exactement.
Ceux qui écouteront le podcast et qui voudront témoigner peut-être. Rappelez vos réseaux sociaux tant qu'on y est.
Oui, vous pouvez suivre Les Portugais sur Instagram et me suivre si vous souhaitez me suivre, Arthur Vacher sur Instagram, et aussi
et
Adrien.
Moi, Garçon de Papier sur Instagram.
Et vos DM sont ouverts. Et le podcast est disponible sur toutes les plateformes, n'est-ce
Exactement.
Pas
Exactement. Et le site de la revue Regard.
C'est super d'ailleurs ce partenariat. Comment ça s'est déroulé?
En fait, c'est une revue que j'affectionne particulièrement, qui est engagée et qui laisse la place à des minorités, aux minorités. Et du coup, ils ont été touchés par le projet. Voilà.
Trop bien. Bah, je pense que tout le monde maintenant va l'écouter. En tout cas, je l'espère. Et puis nous, qui l'avons déjà écouté, on a hâte de l'épisode du mois prochain, début décembre. Donc, mettez la cloche, votre plateforme d'écoute préférée. Mettez aussi 5 étoiles au podcast. Vous pouvez aussi mettre le podcast de Themestadt de Schponson, d'ailleurs. Corporate. Et celui de Plus 351 de Cap Magellan. De toute façon, il n'y a pas de concurrence. Il y a plein de podcasts et c'est ça qui est excellent. Encore félicitations vraiment pour votre travail.
Merci de nous avoir reçus.
Merci pour toutes vos questions.
Mais vous restez avec nous. Hein. Merci pour vos réponses, Arthur et Adrien. Vous restez avec nous donc. Nous sommes avec vous jusqu'à 16h. Vous allez bientôt pouvoir écouter du portugais et pratiquer un peu. Mais d'ici 5 minutes avant cela, ce sera le moment de l'actu sport avec Liliana. Et puis en attendant, on va écouter la dernière musique que tu as choisie. Que des icônes, dis donc Arthur. Évidemment, c'est Petit Pays de Cesaria Evora.
Nasceu, põe uma estrela que cata brilhar. Lina mar, põe uma areia que cata molhar. Espanhol, nesse mundo fora, só rocha e mar. Terra de povo, cheia de amor. Tem morna, tem coladeira. Terra sal, cheia de amor. Tem batu, tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só Rotimar. Terra povo cheio de amor, tem morna, tem coladeira. Terra povo cheio de amor, tem batu, tem funaná. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade. Saudade sem fim. Oi, tanto saudade. Saudade, saudade. Oi, tanto saudade. Saudade sem fim. Estrela que canta brilhar, e na mar boia uma areia, canta moia. Espanhol nesse mundo fora, só rote mar. Terra povo cheio de amor, tem morna, tem coladeira. Terra sal cheio de amor, tem batu, tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só Rotimar. Terra, povo, cheio de amor. Tem morna ladeira. Terra, povo, cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup.
no Tempestade 2.1.
Tempestade 2.1 sur Radio Alpha, c'est le moment de l'actu sport avec Liliana.
Alors cette semaine encore, plein de réussites sportives portugaises à vous annoncer. Commençons par l'info que vous n'avez pas pu manquer. Je vais bien sûr parler du match de foot qui a opposé l'équipe nationale du Portugal à l'Arménie. Notre équipe portugaise a été victorieuse avec 9 buts à 1 pour l'équipe arménienne et s'est qualifiée pour la Coupe du Monde 2026. Félicitations à eux. Ensuite, du côté des arts martiaux et du sport de combat, en jiu-jitsu, Inès Roche est devenue championne du monde de Niwaza Ni Nogi.
On t'en veut pas, on n'aurait pas su le dire non plus.
Voilà, voilà. Donc, moins 48 kilos, U21 au championnat du monde en Thaïlande. Et du côté du judo, Gabriel Kovacs a été vainqueur du Dutch Open à Vanrey aux Pays-Bas. En gymnastique et trampoline, Mathilde Lowe a conquis le championnat mondial par groupe d'âge en trampoline dans la catégorie 11-12 ans en Espagne en remportant la médaille d'or et Inès Freitas le bronze dans la catégorie 13-14 ans dans la même compétition. Pour le triathlon, Miguel Thiago Silva s'est placé à la troisième place de la Coupe du Monde de triathlon de Florianópolis au Brésil. Et les jeunes portugais se sont également démarqués en skate avec Benny Roquette qui s'est placé à la troisième place en skate, en street intermediate, oula, aux prestigieuses exposures skate en Californie. Je suis désolée, en ce moment je bégaye.
Toujours des noms hyper compliqués hein, dans les compétitions sportives. Hein.
Ouais, voilà. Donc aux États-Unis, à seulement 9 ans. Félicitations à eux tous.
Et il y avait un point que tu voulais ajouter du coup sur la politique autour du sport. Je trouvais ça très intéressant.
Oui, alors. Donc je voulais finir, c'est vrai, Julie, par un point important concernant la politique autour du sport de cette semaine. En fait, ce jeudi 20 novembre 2025, à Lisbonne, le gouvernement portugais a présenté un plan national de développement sportif qui est le premier plan stratégique de long terme pour le sport au Portugal, conçu pour une durée de 12 ans. Il s'appuie sur 6 piliers stratégiques et 44 mesures visant à augmenter la pratique sportive, réduire les inégalités et moderniser le système sportif national. Il répond à des défis anciens, donc la faible activité physique, les inégalités d'accès au sport, le manque de ressources spécialisées et les infrastructures vieillissantes. Donc, malgré tous ces succès remarquables, il est essentiel de rappeler que le sport reste avant tout un pilier fondamental de notre santé et qu'il nous appartient de garantir à chacun la possibilité de pratiquer régulièrement dans de bonnes conditions pour que chacun en fait, puisse en bénéficier au quotidien.
Merci beaucoup Liliana, je trouve en effet que c'est très important. Alors juste après, on change de registre avec Antol Discard Porto, mais tout de suite, si vous avez 2 minutes, que vous n'êtes pas dans votre voiture et que vous voulez bouger un peu, je pense qu'on peut tous le faire sur le dernier single d'Aya Nakamura, c'est No Stress.
Automatique, je lui fais de lever, automatique. T'es ma main shape, il veut que me regarder, fait que me shape. Tout est clean clean, il aime bien les bling bling, il aime bien les folles. Dans sa tête j'ai fait drink drink, j'crois j'suis dans un délire, je veux qu'il s'habille comme tout en douce. Je l'ai vu débouler, oh my gosh. Il veut tous mes goûts, tous mes trucs en moi. Ouh, allez voir un autre, c'est mort. Avant gauche, j'ai choqué, kéké. Très éloquente, je l'ai fait bugger, gégé. Fais pas semblant, j'ai que t'es piqué. Ça se sent, ça se voit. Ambiance, t'es contracté, en vrai.
Tu m'intimides quand tu me regardes comme ça. En vrai,
está a ouvir o Temos Estado 2.1 na rádio que nos liga. Estamos consigo até às 4 e chegou a tempo para Antônio de Sequer de Porto. Então, Antônio, quem apresentas hoje?
Então, no mês passado eu tinha falado do grupo de indie rock Lisboeta Ganso, que talvez conheçam. A sua faixa Sorte a Mim, que eu espero que todas aqui foram ouvir novamente.
Claro.
E desta vez vou falar-lhe de uma dupla feminina que eu descobri há pouco. As Pega Monstros e punk rock digna dos Chutos ou do GNR. E vamos ouvir já agora uma das faixas delas que eu prefiro. É chamado Branca, foi publicada em 2015 pelas Pegas Monstros e é agora na Tempestade 2.1. Branca, publicada em 2015 pelas Pega Monstros, uma dupla lisboeta com fortes influências, como puderam ouvir punk rock, também próximo do Ethereal Wave na versão cantar e do shoegaze. Talvez não conhecia o grupo ou talvez esses estilos, mas o que pensaram desta força que têm?
Muita força.
É incrível mesmo.
Nós não percebemos a letra.
É, e talvez não a precise.
Adrien, sempre... Il avait quelque chose à dire sur cette
então,
musique.
Vai,
je trouvais que ça me faisait un peu penser à des musiques dans les films ados. C'est pas péjoratif.
Dans le sens, le moment là où ça lâche tout, t'es en mode.
Exactement.
Ouais,
bon,
très bien ce que tu veux
la
dire.
La vie sur Disney Channel, elle coupe ses cheveux et puis elle avait des Doc Martens bien noirs avec une petite
dans
robe noire.
Dans Twerking mais... I Hate By You, par exemple.
Ouais.
Exactement.
Ah mais c'est magnifique. Mais d'ailleurs, est-ce que vous connaissez le nom du à quoi fait référence le groupe, le nom du groupe Pega Monstros?
Non,
pas du tout.
Então, já vou voltar em português agora, mas faz referência talvez a uma coisa que eu também não conhecia, os Pega Monstros, que são brindes em forma de adesivos elásticos que vinham incluídos nos pacotes de batata frita. Sabe, como tínhamos em França com os cereais, tínhamos brinquedos lá dentro. E era isto, tinham isto nas batatas fritas. Eu também estou achando batata frita por que vais pôr uma coisa elástica, viscosa?
Não,
assim?
Eu posso perceber nas ruffles.
Mas bom,
de presunto, atenção. Ah,
mas então, esse grupo, essa escola começou há 10 anos, quando as duas irmãs, Maria na guitarra e na voz, e Júlia Reis na bateria e também a cantar, resolveram formar um projeto distinto dos Passos em Volta, um outro do grupo do qual faziam parte. E assim nasceu em 2010 esta dupla. Ainda é ativa até hoje, mesmo se o último álbum é de 2017. Saíram um single há pouco, em 2023, e estão a preparar novos projetos. Mas então, elas começaram com a edição de um EP. O Juno 60 nunca teve fita, em 2011, uma coleção de 5 canções. E fizeram-se notar no mesmo ano e conseguiram produzir-se no mítico festival Paris de Coura. Onde foram elevadas à categoria da sensação indie português do ano. Não o top, mas uma sensação da mesma, e foram destacados na cena indie. E pouco a pouco, anos após anos, novamente com músicas mais poderosas, uma identidade visual com letras incisivas, também uma atitude rockera em cena, no palco, e por exemplo com o seu primeiro álbum completo chamado Pega Monstros, em 2012, era mesmo uma energia que debordava do CD da faixa, e nós, quando escutávamos em casa, podíamos ter toda essa energia, essa força, essa raiva que nos transmitei. Fizeram um segundo chamado Alfarroba, que é tirado, o nome vem de uma fruta da região do Algarve, talvez conhecem, e um último em 2017, Casa de Cima. E quando os seus três primeiros álbuns testemunhavam mesmo dessa energia desta dupla de irmãs, ambas cantando e gritando e tocando música com muita energia, no terceiro álbum de 2017 vamos também começar a ver na sua maneira de produzir música, de escrever e de tocar um novo equilíbrio estilístico, e vamos já ouvir talvez um excerto da música Cachupa deste álbum de 2017, que é uma das faixas um pouco mais calmas e enigmáticas para melhor compreender esta banda. É agora Cachupa, pelas Pegas Monstros. Acabamos de ouvir Cachupa, um excerto só, porque a música dura uns 6 minutos, e é uma música da dupla lisboeta Pega Monstros, tirada do seu último álbum de 2017. E mesmo se eu tinha dito que esta música era mais calma, era só em comparação à primeira que tínhamos ouvido, a Branca, porque ainda temos, conserva esses elementos parecidos com a primeira, como a saturação das guitarras, as diferentes harmonias vocais que parecem até um genjo a tocar, a cantar. Mas ao contrário da primeira música, onde a energia vem já no início da música, com esses primeiros acordes que parecem uma lambada na cara, esta música vai mesmo num tom calmo no início e vai num crescendo durante os três primeiros minutos, até chegar a um ponto de ruptura, e onde vamos voltar para uns versos mais calmos depois. A primeira vez que eu ouvi esta música, fiquei mesmo marcado, porque até faltava-me fogo. Também espero que também sentiram um pouco disto. Mas então uma grande parte da identidade da banda vem do fato que as duas irmãs, Maria e Júlia Reis, cantam em harmonia, com vozes mesmo etéreas, ligeiras, contrastando com as guitarras agressivas e a distorcidas pela amplificação. A primeira escuta, como disseste, Julia, no início, é até difícil entender a letra, ou até a língua, mas confirmo que cantem em português e poderão ir ver a letra que são, evocam dramas, emoções pessoais, mas também imagens mais cotidianas, banais, e às quais podemos identificar-nos. Então recomendo mesmo irem ler a letra, porque depois passarão a entender o que estão a cantar durante as músicas. E como vimos e ouvimos ao longo desta rúbrica, as Pegas Monstros têm uma forte energia e uma rebeldia certa, que enquanto ouvinte ou até fã, nos permite encontrar a força de escapar à nossa situação e lutar para um mundo melhor. E quando elas foram entrevistadas pela revista O Grito, que é uma revista portuguesa indie rock, o jornalista perguntou-lhes se pensavam que tinham algo a acrescentar ao rock português por serem mulheres. E elas responderam com muita força e essa energia rebelde: talvez não. Antes de ser mulheres, somos sobretudo pessoas inteligentes. E não fazemos rock por sermos garotas, e a principal razão é porque gostamos de cantar e tocar. E adicionar que até pensavam que toda a gente deveria formar uma banda, independentemente do género e do estilo musical, para exprimir o que sentimos no cotidiano, que seja através da música ou talvez de um podcast. Então, quando é que começámos aqui na Tempestade a fazer música?
Já temos programa, não?
Já é.
Falaste de podcast, nós temos o programa. Acho que é melhor não fazer músicas. Por enquanto, é melhor não fazer música.
É verdade que
tu
não
podes
ouviam.
Fazer.
É que no ano passado fazíamos covers em direito com a Ana Rita. Era muito fixe. Mas então, para concluir esta rubrica sobre esta banda, vamos novamente com uma faixa mais punk rock, à imagem do seu título, Partir a Loiça, para continuar a destruir os preconceitos com esta banda Pegamonstros.
Obrigada, Antonio. Acho que foi uma bela descoberta para toda a gente. E vamos então ouvir Partir a Loiça. Adoro o título. E voltamos daqui a 5 minutos para os Bom Plom. Vous êtes toujours sur Radio Alpha, l'émission Tempestade 2.1 touche à sa fin, mais avant de vous laisser, voici quelques bons plans pour accompagner votre semaine. On parlait avec vous de podcast, et bien sachez que Plus 351, le podcast 100% Luso de la station Cap Magellan, fait son retour lundi après une longue pause. La saison 3 commence dès lundi, donc soyez au rendez-vous. Et d'ailleurs, vendredi, il y a un épisode en duo avec une personne qui se situe ici en régie, avec notre chère Liliana, donc allez l'écouter. Pour les événements à venir, l'association Soleil de Paris organise une maraude vendredi 28 novembre 2025. Rendez-vous donc 10 places de la République à 20h45. C'est une grande partie de l'asso et de la communauté portugaise. Alors, continuons le mouvement et agissons pour la bonne cause, solidarité, tous ensemble. Le Fado est de retour à la salle Vasco de Gama le vendredi 10 novembre à 21h. Retrouvez Ricardo Ribeiro et Teresa Carvalho en fadiste. Jusqu'au 26 novembre, profitez d'une promotion Black Friday pour 3 places achetées, gagnez-en une de plus. Rendez-vous sur le site radioalpha.net pour prendre vos places. L'Académie do Bacalhau de Paris organise une collecte de vêtements, chaussures et jouets pour distribuer aux personnes dans le besoin. Vous pouvez donner jusqu'à vendredi 28 novembre. Suivez le Facebook de Roupa Sem Fronteiras pour où donner. La Santa Casa de Misericordia de Paris lance aussi sa campagne de Noël avec des conserves, de nourriture qui se garde comme du riz, des pâtes, du sucre, ainsi que des produits pour bébés et produits d'hygiène et nettoyage. Toutes les informations sur la collecte sur le site misericordiadeparis.org. Rendez-vous le 4 décembre piano dans le 15e arrondissement pour le concert de lancement du dernier album de la guitariste Fabienne Magnan. Prenez dès à présent vos places. Et Marta Pereira da Costa est de retour le 14 décembre à 15h au Théâtre de la Ville de Paris. Donc prenez vos places également. Toutes ces informations sur le site de Cap Magellan et l'agenda Luso. N'oubliez pas de suivre Temstad de Schmouton et Cap Magellan sur les réseaux sociaux pour ne rien rater. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Arthur et Adrien.
Merci de nous avoir accueillis.
C'était un plaisir. Je pense qu'on a tous vraiment beaucoup aimé en savoir plus sur vous, sur votre quotidien et votre lien avec le Portugal en tant que membre de la communauté LGBT. D'ailleurs, rappelons vos réseaux sociaux et le podcast Les Portugais à retrouver sur toutes les plateformes.
C'est ça, Les Portugais, GAYSZ sur Instagram. Et nos comptes Instagram, c'est Arthur Vacher et Adrien, garçon de papier pour c'est Adrien. Ça.
Ben merci encore d'avoir été. Est-ce que vous voulez faire une casse avant de se laisser?
À vous de nous avoir accueillis. Vraiment, merci beaucoup.
Ouais, c'était super comme échange. C'est trop plaisir de rencontrer aussi plus la communauté portugaise.
Ben, franchement, c'est adorable. À vous, encore une fois. Nous, de notre côté, on se retrouve la semaine prochaine de 14h à 16h avec un nouvel. Je vous propose d'écouter pour terminer Bring Me to Life de Tiesto et Force. Et bonne semaine à tous.
Merci.
Bonne semaine.
Merci.
Bonne semaine. À la semaine prochaine.
Ascendentes e dos lusodependentes que agita a sua tarde de sábado, das 14 às 16, só na Rádio que nos liga. Redifusão, sexta-feira, às 0 horas, e no site radioalfa.net. Tempestade 2.1.